Gloire au Seigneur. On bénit le Seigneur pour sa présence et pour ce temps qu'il nous donne pour réfléchir. Amen. Un temps de réflexion. J'ai aimé ce que l'évangéliste Jétro a dit une fois, là, je pense la dernière fois, qu'on ne peut pas avoir de réforme sans réflexion. Donc ça prend quelque chose, ça prend une réflexion. Amen. La Bible déclare que celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. La Bible dit dans Proverbes. Et la Bible dit aussi, au jour de joie, réjouis-toi, loue le Seigneur. Mais au jour du malheur, réfléchis. Et je crois que nous sommes dans un jour qui n'est pas très heureux pour l'Église. Ecclésiaste le dit. Et je pense que le contexte est vraiment dans lequel l'Église devait se mettre dans un mode de réflexion, de remise en question de certaines choses. Parce que j'ai remarqué que l'une des choses les plus difficiles, c'est de remettre en question ce qu'on a reçu. Vous comprenez? Et l'autre chose aussi, c'est de combattre ce qui est au-dedans de nous. Mais si je vous dis que le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas le diable, mais c'est lui-même. Mais comment tu vins cet homme qui est toi-même? Parce que je me dis toujours, au moment où tu veux lui donner le coup, cette personne l'esquive au même moment. Vous comprenez? Parce que qui d'entre nous peut se donner un coup comme ça? Quand je sais que ça vient automatique, moi je sais l'esquiver. C'est ça tout le challenge. Et là, on veut entrer dans cette réflexion. Pour ceux, on va lire Matthieu 5, 13 à 16. Je ne vais pas vous attendre, je vais juste aller rapidement. Un passage qu'on connaît bien, c'est le Christ qui parle, il dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père et qui est dans les cieux. Amen. On voit Jésus-Christ donner ses paroles juste après les béatitudes. Il est vraiment en train de présenter son programme. Son programme, son message. Il est clair là-dessus. Et là, il est en train d'identifier ce que cette église naissante, ce qu'elle doit devenir, ce qu'elle doit représenter. Lumière du monde, sel de la terre. Mais là, je veux commencer par faire un constat. Voilà le programme de Jésus. Mais quel est le constat que nous avons maintenant, actuellement? Le constat est ceci. Le sel qui perd sa saveur est sa capacité de conserver et de préserver. Est-ce que l'Église est encore ce sel-là? Regardons la société autour de nous. N'allons pas loin, nos familles. N'allons pas loin dans les gouvernements. Regardons juste nos familles. Juste nos familles. Nos familles. Est-ce qu'on a encore, juste par la présence d'un seul, parce qu'avec Dieu, ce n'est pas une affaire d'ombre, de nombre. Mais juste un petit grain de sel met toute la saveur dans la sauce. Je crois que la présence d'un seul chrétien dans une famille, parce qu'en parlant, l'Église a plusieurs dimensions. Tu es l'Église d'abord, toi-même aussi. La Bible déclare, vous ne sais-tu pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Mais la Bible dit aussi que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, en tant qu'individu, tu es déjà l'Église. Là où tu es, dans l'environnement où tu es, tu dois être le sel de la terre. Mais aussi, quand nous sommes ensemble, nous sommes aussi le sel de la terre. Alors, je vois toutes ces dimensions-là. Seul, dans ton milieu, où est le sel? Y a-t-il encore de la saveur? Et ça permet de conserver ce qui est bon. Ou ce qui est bon autour de toi tend à pourrir, à périr. Là, on comprend que le sel n'est plus en train d'agir. Combien de fois nous avons vu des bonnes choses, mais au fil du temps, c'est détérioré. Dans nos églises, on priait, mais il y a une baisse. Dans nos familles, on pouvait se réunir, il y avait plus d'amour, mais il y a tellement de divisions, des suspicions. Alléluia. Dans nos quartiers, dans nos communautés. C'est là que vous dites, le sel n'est plus en train de faire de l'effet. Donc, le programme de Jésus, quelque part, il y a un constat qu'on fait, il y a quelque chose, il y a un écart. Quand je vois la lumière, je dis le problème de la lumière. Quand la lumière est là, elle est là. La lumière est là pour luire au milieu des ténèbres. Mais si nous sommes lumière, mais que les ténèbres continuent à régner, deviennent de plus en plus sombres, je me dis, est-ce qu'il y a une lumière quelque part? Es-tu la lumière au milieu des ténèbres qui sont autour de toi? Sommes-nous, parce que je amène encore cette division, cette dimension d'individu, église et d'église, collectivité. Pourquoi tant de ténèbres? Jésus dit, on a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours, mais il me semble que les ténèbres prennent du terrain. Où est la lumière? Je vais vous dire une chose, la lumière est cachée. Jésus-Christ a carrément dit, c'est comme s'il présente le programme, mais il montre aussi quels sont les failles. Alors, dans cette affaire, n'allons pas trop chercher loin dans nos réflexions. Jésus a déjà dit, le sel, mais s'il perd sa saveur, il présente déjà qu'est-ce qui peut tourner mal pour le sel. Pour la lumière aussi, il dit, le problème de la lumière, c'est qu'elle soit cachée. Est-ce la lumière que nous sommes est juste mal positionnée, étouffée? C'est quoi? Est-ce qu'on a mis un voile sur la lumière pour que les ténèbres puissent en profiter? Si un voile, quel est ce voile? Autant ce voile, parce que je pense qu'on est vraiment la lumière, mais il y a un voile dessus.
Yes.
Vous comprenez? Parce que si la lumière est là, les ténèbres doivent partir. Mais s'ils ne partent pas, je ne serais pas allé jusqu'à dire qu'il n'y a pas de lumière. Il y a une lumière, mais il y a un voile. La lumière est cachée parce que Jésus, c'est ce qu'il a présenté comme problème de la lumière. Caché sous le boisseau. Quel est ce voile qui t'empêche d'éclairer, de chasser les ténèbres autour de toi, en tant qu'individu, en tant que groupe? Ce sont des réflexions auxquelles on peut aller plus loin avec ça. Mais il y a une autre dimension ici, je vois la voix. Je ne sais pas, le mot voix est revenu dans toute la semaine. Jean-Baptiste qui dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Il y a une voix. Quand la Bible déclare aussi dans le psaume que la voix de l'Éternel est puissante, elle retentit dans les déserts, elle fait enfanter les biches. La voix de Dieu, elle est puissante. Quand il y a la voix de Dieu, il y a de l'impact. Il y a une voix qui se fit entendre du haut des cieux pour identifier son fils bien-aimé. Quand la voix de Dieu est là, il y a quelque chose qui se fait. Adam, quand ils sont tombés, ils ont entendu la voix. Cette voix-là, est-ce qu'elle résonne encore? Jean-Baptiste n'allait pas dans les villes, il était dans le désert. Il criait, alléluia. Mais les gens accouraient vers une voix. Toute la ville se disait, on entend un bruit, on entend une voix qui nous interpelle. On ne peut pas rester dans l'état où nous sommes. Dans tous les milieux, les militaires venaient. Les chefs de famille venaient. Les enfants venaient. Les publicains venaient. Tout le monde. Venez. Attends, cette voix. Et le problème de la voix, c'est peut-être que la voix est étouffée. J'ai senti dans mon esprit qu'il y a comme s'il y a comme une main qui veut empêcher. Toute cette semaine, j'ai lutté avec ma gorge. Et le Seigneur m'a fait comprendre que c'était prophétique.
Yes.
J'avais vraiment de problèmes à bien m'exprimer. Je dis, mais c'est quoi? C'est pas une grippe, mais c'est quoi? Et un matin, je me réveille en sursaut. Je dis, mais c'est quoi ça? Alors j'ai compris qu'il y avait une attaque. Le Seigneur me dit, voici l'esprit qui étouffe les voix. Amen. Le problème de la voix, c'est d'identifier l'esprit derrière la voix. Ce n'était pas la voix de Jean-Baptiste. Il y avait un esprit derrière. Mais c'est un esprit qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui étouffe cette voix. Ou autre chose, c'est que la voix est assimilée. Tu es chantre, n'est-ce pas? Cette voix-là, quand tu es peut-être dans alto, mais tu essaies d'aller vers du soprano, on ne sait plus t'identifier. Il y a comme... Bon, on avait un alto ici, il est où? Pourquoi est-ce qu'on entend du soprano ici? Ça amène une confusion. Et peut-être la voix de l'Église aujourd'hui est assimilée à quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'elle n'a plus de l'impact. Checkons. Au niveau de notre foi. Alors, et qu'elle donne un son, le son de la trompette. La Bible nous montre que quand la trompette donne un son confus, qui se rassemblera pour la guerre? Il y a une guerre en ce moment. Mais les troupes sont disparates. Les guerriers, il y en a. Ils ne sont pas mobilisés. Ça prend une voix qui les mobilise. Mmh. La voix du berger est une voix unique qui met toute la bergerie, tout le camp dans la position qu'il faut pour le combat. Aujourd'hui, nous sommes à l'aise pendant qu'il y a une guerre qui se fait. Mais où est la voix du chef de l'Éternel des armées, du chef de l'armée de l'Éternel, qui va mobiliser? Cette voix doit retentir à travers toi, à travers moi, à travers l'Église. C'est le corps de Christ. C'est l'Église qui représente, qui est censée représenter le Seigneur. Cette voix-là. Je fais juste un petit parallèle. Je regarde aujourd'hui ce qui se passe dans l'Église. On est plus porté vers les foules que vers les disciples. J'ai remarqué une chose, Jésus-Christ, la plupart du temps, il fouillait les foules. Mais aujourd'hui, nous, dans l'Église, nous sommes après les foules. Mais Jésus fouillait les foules, mais nous, nous courons après les foules. Jésus se sentait plus à faire des disciples, mais nous, nous courons après des membres. Et sur le point même de nous voler des membres et de nous disputer. Quand j'entends les hommes de Dieu se dire, ah, il m'a pris mes fidèles. Mais je dis, depuis quand les fidèles sont à toi, ne sont-ils pas les âmes du Seigneur? Et je suis plus à l'aise avec cet homme de Dieu parce qu'il m'a pris mes brebis. Mais c'est qui le grand berger qui... Écoute, est-ce que vous savez qu'une âme, généralement, dans toute sa vie, c'est rare qu'elle reste dans une seule église locale.
Beaucoup de pâturages.
Vous êtes d'accord avec moi? Amen. S'il va faire 50 ans de vie chrétienne, pensez-vous qu'il va être dans combien d'églises locales? Même s'il reste dans la même ville. Il y a un moment, la voix du berger, du Seigneur, peut se faire retentir à travers une autre église pour une saison pour sa vie. Et c'est tout à fait normal que cette voix l'interpelle à sortir de ce lieu-là et d'aller. Et les hommes de Dieu, l'Église devrait comprendre ça. Quand on a un corps, ce n'est pas un problème.
Amen.
Je peux discerner que le niveau que tu as maintenant, ça prend un autre pâturage.
Amen.
Et si l'Église était si prophétique, les leaders si prophétiques, on pourrait même discerner cela et te recommander même que mon fils, ma fille, je pense qu'en ce temps-ci, tu devrais être plutôt là-bas.
C'est ça.
Il y a une voix là-bas qui correspond avec les choses que tu es en train de vivre dedans de toi.
Yeah.
Si tu restes trop longtemps, ça va amener un inconfort en toi qui peut créer du désordre. C'est la dimension de l'Église, selon Jésus-Christ. Mais nous sommes bien loin en dessous de ça. Quand je vois le principe de l'élévation, c'est quoi? Aujourd'hui, on parle de l'élévation. Hé! Hey! Aujourd'hui, on va définir l'élévation par le nombre des âmes que nous avons, des membres que nous avons à l'Église. Aujourd'hui, on va définir l'élévation par les titres qu'on a, par le nombre de voitures qu'on a, les maisons qu'on a, par je ne sais pas quelle plateforme dans laquelle on prêche, par les médias, par les affiliations, le réseau qu'on a. Jésus l'a bien défini quand les disciples demandaient qui est le plus grand. Il dit ne faites pas comme les autres là, comme les Romains le font, les païens le font. Le plus grand, c'est, parmi eux, c'est celui qui domine. Mais pour moi, le plus grand, dans mon royaume, c'est le plus petit. L'élévation, c'est l'humilité. C'est comme ça qu'il est venu. Né dans une étable, venu pour servir, pour mourir. Qui encore? Qui? Je vous dis une chose. Quand on voit le modèle de l'Église ici, selon Christ, je vois Jésus-Christ non seulement comme quelqu'un qui est venu, donner un message, mais quelqu'un qui est venu aussi servir d'exemple. Ne manquons pas la dimension exemplaire de Jésus-Christ. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Ce que Jésus-Christ a fait, il nous appelle aussi à faire de même. S'il est venu dans ce monde, dans un environnement, dans cette dimension-là, c'est comme ça aussi qu'on doit entrer dans cette dimension. Le Seigneur m'a dit une chose il y a longtemps, il m'a dit, quand tu entres dans un nouveau milieu, entre toujours comme celui qui sert. Comme étant le plus petit. N'entre jamais comme étant le plus grand. Ah, je ne comprenais pas. Mais après, j'ai fini par comprendre que c'est comme ça que lui, il est entré dans ce monde.
Amen.
Comme un agneau. Alléluia. C'est seulement si tu es comme un agneau que tu peux revenir comme un lion.
Yes.
C'est la stratégie du Seigneur. C'est la stratégie de l'Église. L'élévation, ce n'est pas la gloire des hommes, mais c'est servir. Et aujourd'hui aussi, l'autre phénomène que je trouve, on est juste en train de constater d'abord ce qui se passe. La sous-estimation du sacerdoce. J'étais avec un homme de Dieu, je discutais, mais aujourd'hui, on dirait qu'on est en train de sous-estimer notre sacerdoce vis-à-vis des statuts sociaux. Aujourd'hui, vous avez des hommes de Dieu qui font la courbette devant les hommes politiques. Ou devant les hommes d'affaires. Ou même des hommes de Dieu qui sont en train de voir comme étant le fait de transitionner dans le monde des affaires, dans le monde politique, comme étant quelque chose de supérieur. On oublie ce qu'on a reçu. On a reçu un sacerdoce royal. Où est l'Élysée qui, pendant que le roi était en train de trembler, il était calme là. Il n'allait pas vers le roi, c'est le roi qui venait vers lui pour le consulter.
Amen.
Comme Naaman venait, Naaman le Syrien devait venir là en Israël et que le roi devait déchirer ses habits. Élisée lui dit, pourquoi tu déchires les habits? Amène-le ici et il saura qu'il y a un Dieu en Israël. C'est cette position-là, le manque de considération du sacerdoce. C'est vrai qu'on a défini le leadership comme mettant pas juste quelque chose de l'Église, mais c'est-à-dire que le chrétien, partout où il est, peu importe sa vocation, je ne sais pas, dans les affaires, dans le monde du divertissement et tout, mais on doit reconnaître qu'on est d'abord des sacrificateurs.
Amen.
Considérer que ce que nous avons reçu de Dieu est plus élevé que toute autre chose, tout statut social dans ce monde. Ça, c'est quelque chose qu'il faut rééquilibrer. Mais l'Église, aujourd'hui, n'est plus l'institution de référence dans la société. Quand on parle de sel de lumière, on voit la référence. C'est-à-dire que s'il y a un problème dans la société, on doit parler. Que dit l'Église? Le problème que le gouvernement n'arrive pas à solutionner, que dit l'Église? Dans ta famille, quand les membres de ta famille n'arrivent pas à solutionner quelque chose, on doit venir vers toi et dire, que dit l'Église? Parce que tu es l'Église. Avant de prendre certaines décisions, on doit dire, mais on n'a pas consulté. Qu'est-ce que lui, il dit? On a fait la palabre ici, mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'on reconnaît que tu es la référence. C'est le rôle que l'Église doit jouer. Mais nous constatons que ce n'est pas le cas. L'opinion de l'Église n'est même pas considérée. L'Église aujourd'hui subit les grands changements sociétaux au lieu de les créer et les gérer. On est à la traîne des gros changements qui se font. On les subit au lieu de les créer et même de les gérer. Mais après ce constat, l'autre question qu'on peut se faire, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Je vais dans deux dimensions, dans le passé et dans le présent. Dans le passé, je me dis qu'il y a un danger. Le danger, c'est quoi? C'est de s'identifier. Le danger, c'est de s'identifier à ce qui est passé. Ne regardons pas en arrière une fois qu'on s'est engagé. Même la Bible le dit, celui qui met la main à chair et qui regarde en arrière n'est pas digne. Rappelez-vous de la femme de Lot. L'un des grands problèmes de l'Église, c'est de regarder en arrière. Regarder dans le monde, regarder d'où on est venu, regarder dans cet héritage du passé. Bien-aimés, quand nous regardons en arrière, nous devenons prisonniers. Il y a une Église prisonnière qu'il faut affranchir. Je vous dis, il y a une Église prisonnière qu'il faut affranchir. Il y a une Église qui est en prison qu'il faut affranchir. Prisonnière de son passé, parce qu'elle a regardé en arrière pendant qu'elle s'est engagée. Mais c'est quel passé dans lequel on a regardé? Je vous donne un exemple. L'héritage, par exemple, de l'histoire de l'Église à travers le catholicisme. Il y a juste un point qui m'est revenu, puissant. 2 Corinthiens 6, 16, 18 dit ceci. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Quel est l'héritage qu'on a reçu du catholicisme? Parce que ça nous affecte encore. On a beau dire, nous on ne prie pas les idoles, on ne prie pas Marie. Mais il y a une idolâtrie qui se fait dans nos milieux évangéliques, telle qu'elle se fait dans l'Église catholique. Vous savez c'est quoi? Les hommes ont pris la place de Dieu. L'homme à la tête de l'Église et non Christ à la tête de l'Église. La pire des idolâtries, c'est cette affaire. Parce que la Bible dit clairement que c'est Jésus qui est le chef de l'Église. Et l'Église catholique a amené en élevant Pierre comme étant
le pape. Le premier pape.
Le descendant de pape. Et jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, nous avons l'Église où les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, s'élèvent comme étant les chefs de l'Église. C'est aberrant. Que Jésus redevienne le chef de l'Église et les choses vont se redresser.
Amen.
Ramenons la tête à sa place. C'est son corps. Mais où est la tête? On marche comme une église qui est décapitée. Ou sans tête. Ou à deux têtes. Comme vous voulez. C'est un monstre. C'est une aberration. Il n'y a rien. Il n'y a pas un fonctionnement adéquat là. La tête. Homme de Dieu, est-ce que tu t'es positionné comme étant la tête de l'église? Attention. Est-ce que les gens t'ont positionné comme étant la tête? Parce qu'aujourd'hui aussi, peut-être c'est pas toi, mais les hommes sont en train de te voir comme étant la tête. Raison pour laquelle, quand un homme de Dieu tombe aujourd'hui, il y a des gens qui perdent la foi. C'est aberrant. Oui, la Bible dit qu'on frappera le berger, les brebis seront dispersées. Mais à qu'à cela ne tienne. Le véritable berger, c'est Jésus-Christ. Il est encore assis sur son trône. Il n'y a personne, il n'y a aucun ennemi assez fort pour frapper ce berger-là et pour que les brebis soient dispersées. Alors pourquoi aujourd'hui? Parce qu'un homme de Dieu tombe, toutes les brebis sont dispersées. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que les brebis ont identifié cet homme comme étant la tête, le chef de l'Église. Cette idolâtrie qu'il faut condamner. Et en tant qu'homme de Dieu, vous devez refuser cela. En tant que femme de Dieu, vous devez refuser cela. Je ne suis pas le chef. Regarde à Jésus. Vous verrez à travers la Bible, la plupart des disciples, ils le faisaient quand on voulait les adorer. Ils se disent, non, ne le fais pas, je suis un serviteur de Dieu comme toi, c'est lui.
Ouais.
Même les anges le faisaient.
Ouais.
C'est lui que tu dois adorer, pas moi.
Ouais.
C'est seulement quand c'était une théophanie, c'était vraiment lui. C'est là que l'ange de l'Éternel pouvait recevoir cette adoration. Très important, c'est la place de choix de Dieu. Il partagera cette place à personne, le commencement. Très important. Et ça, c'est cet héritage-là. Et ça crée des aberrations. Voici ce qui s'est passé dans le passé. Et comme la femme de Lot, parce qu'elle a regardé en arrière, était transformée en cristaux de sel. C'est ce qui se passe. Nous qui étions supposés être le sel de la terre, on devient un cristaux de sel, un monument. Qui est juste là à regarder. On est là, dans des historiques. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore quand nous regardons le présent? Quand nous regardons le présent, il y a le passage de Romains 12, 1 à 2, dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce que je viens de dire dans le présent ici, c'est la conformation au siècle présent. C'est ce que j'appelle le sécularisme ou la sécularisation. Un mot peut-être un peu difficile, mais qui a tout son sens. Étymologiquement parlant, la sécularisation, c'est rendre au siècle, rendre au monde, au séculier, ce qui appartient à l'Église. Il y a comme un transfert qui s'est fait des biens de l'Église vers le séculier. Un shift qui se fait. C'est ça la sécularisation. Ou encore, c'est soustraire à l'influence des institutions religieuses, des fonctions ou des biens qui lui appartiennent. L'Église qui devait être référence, on lui prive cette référence. C'est plus à l'Église qu'on voit, mais c'est chez les hommes politiques, c'est dans le monde, c'est dans ceci, dans cela. C'est ce qui se passe. La sécularisation, c'est le fait qu'on se soit conformé au siècle présent. On ramène les choses au séculier. La sécularisation a pour conséquence l'indifférence. Les gens, c'est pour ça que les gens deviennent tellement indifférents même aux choses de Dieu. Elles sont plus sacrées. Ça devient profane, séculier, courant, commun. Aujourd'hui, les gens se permettent de dire n'importe quoi de l'Église, des hommes de Dieu. Et même nous-mêmes aussi, parfois, nous ne prenons pas la chose. Nous ne l'élevons pas à un certain niveau de crainte et de sérieux en discernant que c'est le corps de Christ. Je vous donne un exemple. La Bible dit « Ne touchez pas à mes oints ». Mais est-ce que tu sais que chaque enfant de Dieu est loin de Dieu. Quand tu parles légèrement d'un enfant de Dieu, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu es en train de toucher loin de Dieu. Tu es en train de toucher à Christ. La sécularisation. Tu es en train de banaliser cela. Tu es en train de profaner cela. De les réduire. Et parfois, c'est nous-mêmes qui avons commencé ça. Parce que si nous-mêmes, nous n'avons pas égard, nous ne discernons pas le corps du Christ à travers chacun d'entre nous, comment les gens du dehors vont le dire? Ils ne peuvent que le fouler. Rappelez-vous d'Ésaü qui a méprisé le droit d'aînesse. Ça commence de loin, cette affaire de sécularisation. Et il a perdu son influence. Il a voulu le récupérer après avec des chaudes larmes, mais il ne pouvait plus. Or, ce droit d'aînesse, c'est lui qui est rattaché à la bénédiction, aux promesses de Dieu. Quand on le méprise, on perd justement la bénédiction. Alors, c'est là que ça amène, cette sécularisation correspond justement à cette baisse d'influence de l'Église dans la société. Et il est observé dans toutes les sphères de la société. On perd du terrain. Alors, par où commencer? Par où commencer? Oh, bien aimé. La seule chose que j'ai fouillée, je dis, Seigneur, c'est vrai, ce sont des réflexions. Je ne suis pas en train d'amener des solutions. Qui suis-je? On entre juste dans un mode de réflexion. Par où commencer? Je dis, commençons par la notion du corps à trois dimensions. La notion du corps à trois dimensions, parce que c'est ce que Christ nous a laissé. De la même façon qu'on dit que l'homme est tripartite et tout ça. Le corps à trois dimensions. Et je vous donne ces trois dimensions. La première dimension, c'est la formation. La formation du corps. La deuxième dimension, c'est la plénitude du corps. Et la troisième dimension, c'est le fonctionnement du corps. Donc, la formation, la plénitude et le fonctionnement. Donc, en d'autres termes, la formation, c'est le contenant. Le corps est un contenant. L'Église est un contenant. Une habitation, une maison. Ouais. La maison de Dieu. Mais la dimension de la plénitude, c'est que Dieu nous forme pour nous remplir. Un contenant qui n'est pas rempli d'un contenu. Vous comprenez? Ce n'est pas un contenant qui doit rester vide, par exemple. Donc, vous voyez, la deuxième dimension, c'est le contenu. Et la troisième dimension, c'est le fonctionnement. Une fois qu'on est rempli du contenu, dans le contenant, c'est pour un fonctionnement.
Yes, amen.
Car l'Église qui est assise sans fonctionnement, elle vit carrément une sorte de forme de malédiction. Parce que ton pied qui est en bon état est là pour une fonction. Et le fait de ne pas le fonctionner, vous verrez même que si vous êtes alité pendant très longtemps à l'hôpital et que vous essayez de remarcher, vous savez ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'il n'a été sans fonction. C'est ça le problème. Alors, c'est là qu'on commence. La formation de l'Église, je vais rapidement, le contenant. Le contenant, vous avez la notion de la maison. On dit que nous sommes la maison de Dieu, une habitation de Dieu en esprit, le tabernacle. C'est ça, le contenant. Dieu nous a formé un corps. Ce que Jésus, que Dieu avait besoin, c'est ça. Il a dit, tu m'as donné un corps et j'ai dit, me voici pour faire ta volonté. Le corps, bien-aimé. Est-ce que vous réalisez que dans Romains 12, que Dieu donne le remède contre cette sécularisation? Dans le verset, il a dit, offrez quoi? Vos corps. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi il n'a pas dit offrez vos esprits, offrez votre intelligence? Mais le corps, tout commence par le corps. L'esprit ne remplira pas, il a besoin d'une structure, il a besoin d'une habitation. L'esprit a besoin d'un corps. Vous comprenez ça? Alors le corps, c'est ça, c'est ce tabernacle, c'est cette formation-là, c'est cette forme, cette structure, cette touche. En passant, quand Dieu a créé les choses, vous réalisez que quand il a créé, La plupart des choses qu'il créait, il parlait. Mais c'est seulement quand il est arrivé à l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché. Il a pris de la poussière et il a formé. Parce que Dieu avait quelque chose. Dit, je veux faire habiter une partie de moi. Je veux donner mon contenu, mon esprit. Mais ça prend un corps. Dans les restes, je n'ai pas mis mon esprit, mais dans celui-là. Parce que c'est lui qui va être comme moi. L'Église doit me représenter. L'Église doit me manifester, me révéler. C'est pour ça que je dois former le corps, façonner. Et quand on façonne le corps, on a besoin de toucher. C'est pour ça que l'homme, depuis ce temps-là, a besoin d'être touché. Si on ne te touche pas, tu ne t'es pas bien. Oui. Il faut qu'on te touche. Ça te fait du bien. C'est important. Et Dieu te touche. C'est pour ça qu'on dit, touche-moi, il faut le dire. L'Église a besoin de toucher. Il touche. Et parfois, ça touche, parfois, fait mal. Quand on te touche pour enlever un cancer, ça ne fait pas du bien. Et depuis lors, l'Église est formée, façonnée, brisée, persécutée. C'est une formation.
Amen.
Les diverses difficultés, les persécutions du moment présent ne pourraient être comparées à la gloire. C'est-à-dire à la plénitude qui doit venir, à l'esprit qui doit venir. Donc, permets que Dieu te... Pasteur, permets qu'il pique là, qu'il taille. Et il est en train de donner une forme parce que... Regardez, entrez dans la maison du potier.
Alléluia.
Oh, une forme...
Il casse,
il dit non, c'est pas ce que je voulais. Il casse. Pourquoi? Parce que la forme va correspondre à la plénitude.
Alléluia.
Si c'est pas la bonne forme, le contenu ne pourra pas y habiter. Donc laissons. Et puis parfois l'Église, oui, l'Église passe de tirer. Elle est en formation. Elle est un projet de construction. Mon frère est à poser des constructions. Donc, je dois être patient avec mon frère.
Amen.
Même si de temps en temps, il me marche sous les pieds. Je dis, Seigneur, je sais que tu le construis. Prie que Dieu construit davantage. C'est pour ça que Paul pouvait dire, je me réjouis de toutes ces afflictions. Je lui ai dit, ma grâce te suffit. Je suis en train de te bâtir, Paul. Parce que la gloire que je dois faire reposer dans ta vie, j'ai besoin de détruire toute forme d'orgueil en toi. Pour l'excellence des révélations que tu dois recevoir, des choses qu'un homme ne peut pas voir, évangéliste. Dieu a besoin de taille. C'est pour ça que tu es passé par tout ce que tu es passé, à cause des choses que Dieu doit faire. Et vous voyez justement cette notion de corps de touche. Mais ce qui est bon, c'est que dans le corps, il y a la notion de sacrifice. Parce que Jésus qui a reçu un corps, l'ultime but, c'était quoi? De le sacrifier. Offrez vos corps. Le problème de l'Église, c'est que la notion du corps, on n'a pas offert. On veut se suffire. On veut la garder au lieu de la perdre, de l'offrir. Où est l'Église qui jeûne encore? Où est l'Église qui se sacrifie? Où est l'Église qui laisse la place à l'autre? Où est l'Église qui s'occupe de démunir? Où est cette Église-là qui se sacrifie? Qui se sacrifie? Et pourquoi? Parce que c'était une Église qui connectait à la terre. Amen. Dieu a tiré de la poussière parce que c'est la seule chose qui te connecte à la terre, c'est le corps. Et dans la dimension du contenu, mais qu'est-ce qui... Oh my God, je ne sais pas pourquoi je reste encore là. Mais le problème dans le corps, c'est qu'il y a plus d'accusations que d'intercessions. Il y a plus d'accusations que d'intercessions.
Amen.
Parce que l'un des deux plus grands ministères qui sont restés aujourd'hui, c'est le ministère d'accusation et le ministère d'intercession. L'un est exercé par le diable et l'autre est exercé par Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il intercède pour nous. Et dans sa prière sacerdotale, qu'est-ce qu'il a fait? Il a intercédé pour l'Église. Donc, nous sommes des intercesseurs. Alors, quand nous sommes dans le corps bien-aimé et qu'il y a un problème, tu as deux choix. Soit tu accuses, soit tu intercèdes.
Yes.
Positionne-toi. Toi, Amen. Tu es pour la plupart du temps.
Alléluia.
L'un des problèmes du corps,
c'est merci. Ça.
Nous avons des grands chantres qui sont tombés. Aujourd'hui qu'on connaît. Mais on est prêt à partager toutes ces affaires sur Facebook et tout ça. Il y a un homme de Dieu qui m'a beaucoup interpellé. L'autre fois, il a dit, mais le Seigneur l'a réprimandé. Il est pris pour ça. Il a vu en vision un homme de Dieu connu qui est tombé dans un scandale récemment. Un grand chantre. Et ce chantre l'a embrassé. Pourquoi? Parce que merci, homme de Dieu, d'avoir prié pour moi. Alors il a dit, mais j'ai juste fait une petite intercession. Et il a eu tellement mal, j'aurais dû prier plus. Alors le Seigneur a dit, vous voyez comment votre intercession, c'est qu'elle peut faire. Mm-hmm. L'homme est revenu à sa femme, l'homme est revenu au ministère. Et il dit, je dis, waouh!
Yes.
On a perdu la notion d'intercession. Mm-hmm. C'est ce qui garde le corps. Et le contenu, bien-aimé. Parce que le plan de l'ennemi, c'est diviser pour mieux régner. Il va tout faire pour que le corps soit morcelé. Une maison divisée contre elle-même ne peut pas tenir. Et il ajoute le contenu. La notion du contenu, c'est la plénitude. Vous voyez, une fois que le corps est formé, le contenant, il faut maintenant le remplir. Le contenu, l'esprit. C'est là maintenant que Dieu souffle sous les narines de l'homme. C'est là que, quand Jésus-Christ a offert son corps, alléluia, que maintenant l'effusion du Saint-Esprit est venue. Maintenant qu'ils font un, ils étaient tous unis dans la chambre haute, en train d'intercéder, en train de bâtir ce corps, cette habitation de Dieu en esprit. C'est là maintenant que Dieu pouvait souffler. Dieu pouvait envoyer son esprit, son logos. Le logos, c'est d'abord une pensée. La pensée de Dieu. C'est l'idée de Dieu, le concept de Dieu, la parole de Dieu, le message de Dieu. Quel est le message que Jésus-Christ amène? Le message du royaume. C'est ce contenu-là, parfois, qu'on a perdu. Aujourd'hui, on prêche tout autre chose, mais le contenu. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'effet. On doit revenir sur le contenu, sur le message. Regardez dans la prière sacerdotale de Jésus-Christ. Je le lisais encore aujourd'hui avant de venir. Le Seigneur prie pour pratiquement trois choses spécifiques. Il prie d'abord en disant, Seigneur, je leur ai montré ton nom, Père. Le nom, l'identité, qui ils sont. Et il dit que je leur ai donné ta parole. Parce que l'identité va les conformer justement à ce corps, à qui ils sont. Mais je leur ai donné la parole, le message, le contenu. Et puis il ajoute que je prie afin qu'ils restent un. Donc c'est comme si Jésus-Christ disait, je prie que tu les gardes afin qu'ils restent un. Je dis, waouh! Donc Seigneur, tu réalises que le plus grand combat de ce corps, de cette église, c'est la division. Si Christ prend le temps de prier pour ça, à combien plus forte raison?
Ah, amen.
C'est la seule chose que l'ennemi peut... C'est la seule manière qu'il peut vaincre. Mm-hmm. Alors, le message du royaume, le contenu, c'est Christ lui-même qui habite dans son corps. Le contenu, c'est le feu de Dieu. Alléluia. Et j'associe cela avec le contenu. C'est-à-dire, un corps qui n'est pas offert, Dieu ne fera pas descendre le feu. Le feu ne descend que quand il y a un sacrifice.
Mm-hmm.
Quand le corps est offert, le contenu, le feu descend. Le feu descend, il ne peut que descendre. Le contenu, c'est les rêves, c'est la vision, c'est les possibilités, c'est le potentiel. Amen. Mm. Mais j'aimerais vous dire, dans le contenu, bien aimé, il y a un grand danger qui vient dans le contenu, c'est la peur. Vous savez c'est quoi? On a peur, pourquoi? On a peur, la peur c'est le résultat de se remplir soi-même, de soi-même. Quand tu es rempli de toi-même, tu as peur. Mais quand tu es rempli de Dieu, la peur, ça te donne un esprit de, qui n'est pas un esprit de timidité. C'est ce que Paul nous dit. L'esprit, quand il est en toi, tu ne peux pas être timide. Tu es plein d'amour, de courage, d'audace. Mais maintenant, si l'église, le corps, le contenant n'est pas rempli de l'esprit, il est rempli de quoi? De la chair. Non? Si on est rempli de nous-mêmes, qu'est-ce que ça va amener? La peur. Et avec la peur, on est déjà vaincu avant même d'entrer dans le champ de bataille. Alors, vous voyez comment on peut déloger cet esprit de peur? En formant le corps qui peut être rempli par l'esprit. Ha! Quand tu es rempli par l'esprit, tu peux te tenir devant 450 prophètes de Baal.
Yes.
Un seul prophète de l'Éternel contre 450 prophètes de Baal. Et renverser l'idolâtrie dans ta région.
Amen. Woke.
Ça, c'est ce que Dieu fait. Alors, le dernier point pour le fonctionnement. Alléluia. Parce que quand il y a le contenant rempli avec le bon contenu, c'est pour un fonctionnement. Dieu ne met pas une onction pour ne pas fonctionner. Il ne met pas un équipement, un message pour ne pas fonctionner. On doit fonctionner. Alléluia. Bien-aimé, la fonction, c'est le but de Dieu, le mandat de Dieu, la mission de Dieu. Ce que Dieu t'appelle à faire, là où il te place. Il a placé son église à Montréal. Parce qu'il y a une église à Montréal. L'église de Montréal est là pour une mission, pour un fonctionnement. Mais ce fonctionnement, Dieu ne brûle pas les étapes. Ce fonctionnement ne peut pas se faire s'il n'y a pas un corps qui est rempli du bon contenu. Amen. C'est ça cette étape. Mais parfois on veut sauter. On se dit, ah, on est un corps. On va... Non, 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 vous n'êtes pas rempli. Ou d'autres disent, oh, on a l'esprit, mais je vois que le corps n'est pas un. Il y a des fissures. Colmatez d'abord ces fissures-là.
Amen.
Je ne vous laisserai pas fonctionner. Et vous savez une chose, c'est que ce qui se passe, c'est que il y a une certaine forme de malédiction. Vous allez peut-être me dire, oh, mais l'église ne peut pas être maudite. Mais je vais vous dire une chose. Quand Jésus-Christ est passé, qu'il a vu le figuier qui ne donnait pas de fruits. En fait, le problème, c'est que le figuier là, ne devait même pas donner des fruits. C'est même pas vraiment sa saison. Mais le fait que Jésus n'avait même pas vu de feuilles qui pouvaient annoncer une saison, Jésus-Christ l'a maudit. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas fonctionnel. Il prenait de l'espace pour rien.
Alléluia.
Quand tu prends de l'espace sans fonctionner, ça mène une malédiction. Est-ce que tu es là où tu devrais être? Est-ce que tu es en train de faire ce que tu devrais faire? Beaucoup de bobos, de difficultés dans ta vie, c'est parce que tu ne fonctionnes pas comme tu devrais fonctionner. Tu es dans le dysfonctionnement. Et le dysfonctionnement amène un malaise, une malédiction. Beaucoup de problèmes pourraient être réglés là. Ramenant l'église à son fonctionnement, l'église s'épanouira. Le corps s'épanouira. Amen. Le dysfonctionnement aussi, c'est vouloir agir comme tout le monde et hors de sa sphère. Aujourd'hui, on veut être comme le monde. Aujourd'hui, on veut être comme les hommes d'affaires. Aujourd'hui, soyons l'Église.
Amen.
Sois toi-même. Sois ce que Dieu t'a appelé. Sois ta place. L'orteil ne va pas dire, je veux être l'œil.
Jésus,
n'imitez
pas les
idoles. Hé, où sommes-nous? Si je ne suis pas appelé évangéliste, je dois laisser ça de côté. Le grand problème avec... Nous avons beaucoup de pasteurs qui ne devraient pas être des pasteurs.
Amen.
Je dois dire Alléluia. Ces choses. Il y en a qui sont des pasteurs qui ne devraient pas être des pasteurs.
Amen.
C'est vrai.
Il y en a qui devraient être des évangélistes, je ne sais pas, dans les fins fonds des villages et tout ça en train d'évangéliser. Mais ils sont là en train d'être bergers dans les pastors. C'est pour ça que rien ne bouge. Et parce qu'eux, ils ne sont pas en train de bien fonctionner. Le reste aussi ne peut pas bien fonctionner.
Non, dysfonctionnement.
Dysfonctionnement total dans le corps. Voici ce qu'il faut corriger dans l'église.
Le corps est malade.
Il y a des gens, il y a des pasteurs qui sont appelés à un ministère prophétique, mais ils sont en train d'être étouffés parce que ce n'est pas populaire, parce
Amen.
Qu'ils ont peur de ce que les gens vont dire.
Amen.
Mais c'est des véritables prophètes qui devraient même écrire des livres prophétiques, Jésus. Des chants prophétiques, qui devaient annoncer le programme de Dieu pour des villes et des nations.
Jésus.
Mais qui sont en train d'étouffer cette voix est en train d'être étouffée en donnant des messages qui n'ont pas rapport avec leur fonctionnement. Du dysfonctionnement. Il y a des gens, peut-être que, oui, ils sont dans une saison où ils ont fonctionné comme évangélistes, mais maintenant, c'est la saison où ils doivent fonctionner peut-être comme chante. Parce qu'il y a un temps aussi. La Bible déclare, David, en son temps, a servi au dessein de l'Éternel.
Amen.
Amen.
Amen. Bien-aimés, pour conclure, le contenant, c'est ce que nous avons. Amen. C'est notre avoir. Le corps. Dieu nous a donné le corps. Valorisons cela. Mais le contenu, c'est ce que nous devenons. Parce que la Bible déclare qu'il souffla dans ses narines et il devint. Alléluia. L'Église devient ce qu'elle est appelée, c'est quand elle est remplie. Mais l'Église, on a reçu le corps. Amen. Mais le contenu amène notre devenir. C'est un mystère ce qu'on est appelé à devenir. C'est un mystère. Et la Bible déclare que toute la nation entière, la terre entière attend la révélation. C'est ça qu'on attend, ce devenir-là. Cette manifestation-là. Mais une fois qu'on a ce devenir, bien aimé, le fonctionnement, c'est ce que nous faisons. Nous partons de la voie, du devenir et du faire. Amen. Mais le modèle de Jésus, bien-aimé, on voit qu'il était centré sur le message du royaume, centré sur le Père, centré sur la formation des disciples. Mais je clôture avec Jean 17, où il fait cette prière. Et c'est là que se passe la clé. Je leur ai montré ton nom. Je leur ai donné ta parole. Et je prie que tu les gardes dans l'unité. Et là, je prie que tu les sanctifies. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Il insiste sur la sanctification deux fois. Parce que cette église est appelée à être mise à part. Mise à part. Mais l'unité reste comme quelque chose de fort. Fort. Mais l'unité, là, est possible que par notre association à Christ. En fait, je suis uni avec toi, c'est parce que tu es uni à Christ. Et je suis uni à Christ. C'est comme, parce que si je cherche l'unité comme ça avec toi, c'est difficile, c'est impossible. On est tellement complexe, compliqué, bizarre. Ça, dans la chair, ça ne peut pas se faire. C'est seulement dans l'attachement à Christ. Et l'unité n'est possible aussi qu'en suivant un seul berger. Et en entendant la voix du berger. L'unité dans la connaissance, l'unité dans la foi. Mais quand toi et moi, nous avons des connaissances divergentes, tu vois pourquoi c'est important que l'enseignement, il persévère dans l'enseignement. Aujourd'hui, on est trop dans, ça c'est encore un constat, on est trop dans du farfelu, du superficiel. On ne veut plus la parole solide. Mais cet enseignement va ramener qu'on puisse entendre tous une même voix.
Amen.
Et renforcer l'unité, renforcer notre foi. Dans l'unité. Amen. Et bien aimé, c'est important pour nous. Nous devons rendre à Jésus son corps.
Amen.
Amen.
Je vais vraiment conclure avec ça. Nous devons rendre à Jésus son corps.
Ouais, ouais.
Il est la tête de l'Église. Rendons-lui son corps.
Et bien important, s'il vous plaît.
Et bien important. Et l'autre chose, bien aimé, je finis par là, je me suis posé une question. Ce n'est quelle est ma contribution pour ce corps? On dit que je manque quelque chose. Le Seigneur me dit, considère chaque membre de mon corps, aussi petit qu'il soit.
C'est ça, amen.
Et tu feras beaucoup pour mon corps.
Amen.
La seule petite personne qui fait partie de son corps, c'est déjà son corps.
Yes.
La façon dont tu la traites. Hey! Tu es en train de discerner le corps du Christ. Tu es en train de fortifier ce corps. Ce contenant, ce contenu. Et ce fonctionnement, considérant chaque membre du corps. Et nous aurons gagné beaucoup de choses. Il y a des membres qui sont encore prisonniers. Et je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, l'ennemi est en train de gagner du terrain. Vous savez comment? En utilisant d'autres chrétiens. Tu seras plus combattu par des chrétiens que par des païens.
C'est ma réalité.
C'est ta réalité.
Pas futur.
Tu es déjà.
Passé
et présent. L'évangéliste est en train de confesser.
Amen.
Mais vous voyez pourquoi le diable le fait?
Oui.
Diviser pour mieux régner. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'il perpétue le ministère d'accusation. Mais maintenant, notre rôle évangéliste, c'est de voir tous ces chrétiens qui nous affligent, que l'ennemi utilise, parce que beaucoup sont même ignorants, ils ne savent pas que l'ennemi est en train de les utiliser. C'est de chercher la libération de ces prisonniers. Ce sont des prisonniers de guerre qui sont en train d'être utilisés par le camp adverse.
Yes.
Une fois qu'on dépouille
l'armée,
l'ennemi de ses pions, de ses militaires qu'il a usurpés, nous renforçons le camp. Allons rechercher ces membres-là. Que Dieu bénisse sa parole.